C'est le Seigneur qui nous accueille aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Peuple du Seigneur, venez, adorez votre Dieu. Rendez-lui gloire pour sa sainteté et sa bonté. Faites monter vers lui vos louanges. Lui seul est Dieu. Lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec des acclamations en sa présence. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bienveillance dure toujours et sa fidélité de génération en génération. On va prier nous aussi pour notre propre réception de la parole du Seigneur. Père éternel, nous sommes reconnaissants encore une fois d'être réunis, que tu nous aies appelés à venir entendre ta parole et à venir l'entendre ensemble, Seigneur, pas chacun séparément dans son coin. Nous te prions, Seigneur, que ton Saint-Esprit fasse son œuvre en nous pour éclairer cette parole que nous allons entendre, pour nous donner de la recevoir complètement, pour nous permettre aussi de nous laisser bousculer et changer par elle, nous permettre de nous laisser mettre en marche, corriger quand il le faut, encourager quand c'est le temps de l'encouragement. Merci Seigneur parce que ta parole est toujours actuelle et percutante. Et on a bien conscience que si elle ne nous transforme pas, c'est à cause de nous. Alors Seigneur, nous te prions de faire tomber les barrières. Continue, Seigneur, de nous transformer à l'image de ton Fils, pour ta seule gloire. Amen. Voilà, je vous invite ce matin à une lecture dans l'évangile de Matthieu. Les autres lectures du jour, en fait, qui vont ensemble, je les ai lues pendant la liturgie, donc j'y ferai éventuellement référence. Matthieu, au chapitre 21, c'est une toute petite parabole, petite en taille, mais profonde en avertissement. Les versets 28 à 32, c'est Jésus qui parle. Qu'en pensez-vous ? Un homme avait deux fils. Il s'adressa au premier et dit : Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit : Je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il y alla. Il s'adressa alors au second et donna le même ordre. Celui-ci répondit : Je veux bien, Seigneur, mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père ? Ils répondirent : Le premier. Et Jésus leur dit : En vérité, je vous le dis, les péagers et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les péagers et les prostituées ont cru en lui et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Un récit qui fait suite à un passage sur l'autorité de Jésus. Et Jésus s'adresse aux pharisiens dans ce texte. Je ne sais pas si vous mesurez le choc. Voilà une petite parabole en taille, mais qui est là pour nous interpeller et pour nous faire réfléchir. La première raison, c'est que Jésus commence ce texte-là en interpellant ses auditeurs. Qu'en pensez-vous ? Et quelque part, c'est à nous qu'il pose aussi la question. Il veut faire participer pleinement à la discussion et à la réflexion. La seconde raison pour laquelle elle doit nous interpeller, je crois, c'est que cette parabole, je la trouve étonnamment actuelle. Nous allons voir de quelle façon. Un homme avait deux fils. Tout comme il y a deux groupes de personnes concernées par cet enseignement de Jésus. Les pharisiens et les grands prêtres, c'est le premier groupe, ceux qui savent, ceux qui sont chefs, docteurs de la loi. C'est eux que Jésus interpelle. Et le deuxième groupe, c'est les péagers et les prostituées. On ne sait même pas s'ils sont présents là. Alors ce texte, évidemment, a beaucoup de résonance avec un autre récit, peut-être qu'on connaît mieux, hein, dans lequel il est question d'un père et de deux fils, et qui commence pareil, un homme avait deux fils. C'est la parabole du fils prodigue. Et il y a quand même pas mal de similitudes entre ces deux textes. Un homme avait deux fils, on pourrait passer rapidement sur cette affirmation, et en fait, d'emblée, elle est polémique quand même, parce qu'elle nous apprend que les collecteurs d'impôts et les prostituées ont le même statut filial, ici, que les pharisiens et les grands prêtres. Alors c'est quand même peut-être déjà un premier choc, hein, pour les auditeurs de Jésus. Je l'ai dit, la parabole est précédée d'un dialogue sur l'autorité de Jésus, et c'est ce qui donne finalement plus de poids à la fois à cette affirmation et aux suivantes, puisque là on démarre un cycle de trois paraboles, hein, qui vont nous enseigner de manière graduelle. Et à la fin de cette petite parabole-là, on n'est pas sûr quand même que les pharisiens et les grands prêtres ont compris, puisqu'ils semblent n'avoir aucune réaction. C'est la raison pour laquelle Jésus enchaîne avec la parabole qui suit, celle des vignerons homicides. Et le sens des paroles de Jésus apparaît clairement du coup à la fin. Je vous lis juste le verset de la fin de cette parabole, hein. Après avoir entendu ces paroles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Ça y est. Bon, et d'ailleurs, ils cherchent à le faire mourir, hein. Ça ne provoque pas de repentance. Alors, je reviens au début de notre passage. La demande, hein, qui est posée par le Père, l'ordre qui est donné, c'est « Va aujourd'hui travailler dans ma vigne ». Il nous faut nous arrêter un peu sur la vigne, parce que si l'on connaît un petit peu les paraboles de Jésus et l'ensemble de ses paroles, l'ensemble de la parole d'ailleurs, on sait que la vigne représente ce que Dieu a de plus précieux. Partant de cette considération, on comprend donc mieux qu'il ne s'agit pas tant d'un ordre à aller travailler dans la vigne, mais plutôt d'une immense confiance que fait le Père de demander à ses fils de travailler dans la vigne, dans quelque chose auquel il tient, qui est à lui. Nous sommes là face à la confiance d'un Père qui partage son œuvre, son bien le plus précieux, avec ses fils. C'est une confiance qui va les élever au rang de responsables, en tout cas qui voudrait les élever au rang de responsables. Et vous voyez à quel point ça rejoint ce qu'on a vécu avec les dons, il y a quelques semaines. Les deux fils sont mis à la tâche par le Père de la même manière. Part à l'œuvre du royaume. Alors ça peut être choquant en premier lieu, hein, mais évidemment ça n'est pas parce que les péagers et les prostituées sont des péagers et des prostituées qui sont appelés à travailler dans la vigne. Hein. J'espère que vous l'avez compris à la lecture. C'est parce qu'ils ont reçu la parole de justice de Jean-Baptiste, et on ose le croire, du coup, la parole du Christ, puisque Jean-Baptiste annonce le Christ. En tout cas, lu du point de vue du Père, le récit voit ses fils à première vue avec le même regard, et la sollicitation semble inconditionnelle. Elle est très actuelle, puisque finalement, ces deux fils, c'est chacun d'entre nous. Nous avons chacun et chacune un appel de Dieu à travailler et à servir dans son œuvre. Et là aussi, c'est comme pour la parabole du fils prodigue. Hein. Et en fait, on se rend bien compte que ces deux récits, c'est quand ils sont lus du point de vue des fils qu'il y a une différence énorme. Pour eux, impossible d'être dans le même panier. On ne mélange pas les torchons et les serviettes. Hein. Et puis d'abord, qu'est-ce que c'est faire la volonté du Père ? Le premier fils refuse, puis, nous dit le texte, il se repent. Et il y va quand même. Le deuxième, il dit oui. Hein. On en connaît des gens comme ça qui disent oui. Et puis ça s'arrête là. Il dit oui, mais il fait rien. Il est finalement infidèle. Le récit, en fait, est en train de stigmatiser la faille entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Pour mieux mettre en valeur ce qui surgit et qui est le cœur du message, c'est-à-dire la capacité de tout un chacun à se repentir et à croire, capacité qui n'est pas toujours mise en action et saisie. Il ne sert à rien de se montrer, finalement, nous dit ce texte. Il ne sert à rien d'avoir la connaissance ultime, de se placer plus haut que les autres. Et là, ça résonne avec le texte de Philippiens. Ça ne sert à rien si on ne met pas cette connaissance en pratique. Il est préférable de n'avoir de valeur aux yeux de personne, mais de se repentir et de croire. Faire la volonté du Père ici, quelque part, c'est croire. Mettre sa confiance. Et je l'ai dit tout à l'heure, les péagers et les prostituées ont fait la volonté du Père dans le sens où ils ont accueilli Jean-Baptiste, ses paroles, sa prédication, ce qu'il annonçait. Par la foi, ils ont cru à ces paroles qui annonçaient Jésus. C'est la raison pour laquelle on peut penser que quelque part ils ont accueilli Jésus lui-même, puisque la mission de Jean-Baptiste était de préparer la venue du Seigneur. Et accueillir Jésus, ça veut dire accueillir le salut qu'il nous offre, mais pas se limiter à l'accueillir dans notre intellect en se disant « Bon, ben super, j'ai compris, hein, j'ai compris l'idée, Jésus nous sauve. » Au contraire, on est appelé à l'accueillir en nous, alors bien sûr dans notre intelligence, hein, c'est pas interdit, mais aussi dans notre âme, dans notre cœur, dans notre être. On est appelé à la comprendre, cette œuvre de salut, mais aussi à la vivre, à la laisser nous changer. Accueillir Christ, c'est pas seulement se dire sauvé, c'est accepter de lui confier nos vies tout entières. C'est autre chose quand même. C'est accepter d'être différent de celui qu'on était avant. Accepter de nous soumettre à sa volonté, même si parfois elle ne correspond pas du tout à la nôtre, parce qu'il sait mieux que nous ce dont nous avons besoin. Et il le sait mieux parce qu'il nous aime. Il nous aime à tel point qu'il a donné sa propre vie pour nous sauver, pour nous racheter de l'état de pécheur où nous nous trouvions, pour nous réconcilier par sa vie et son sang avec le Père, et pour nous redonner ce fameux statut du début du passage, le statut perdu de fils et de fille de Dieu. C'est par le sang de Christ qu'on retrouve ce statut-là. En acceptant les paroles de Jean-Baptiste par la foi, c'est tout cela que les péagers et les prostituées ont commencé à percevoir. Ils se sont placés sur le chemin du salut offert. Et on le sait bien, c'est un chemin qui n'est pas acquis une fois pour toutes, hein. C'est un cheminement continuel tout au long de la vie. On apprend, on comprend, on fait des erreurs aussi, mais on progresse avec l'aide du Seigneur. Et voilà l'interpellation de Jésus, hein. Et vous, voyant cela, vous ne vous êtes pas davantage dans la suite repenti pour croire. Les pharisiens et les grands prêtres auraient dû s'interroger en voyant l'attitude des collecteurs d'impôts et des prostituées. C'est ce que Jésus est en train de leur dire. Ça aurait dû entraîner un changement chez eux, un changement de foi. Et là, on se rend bien compte que c'est le monde à l'envers. Des chefs de la loi, des érudits en matière de connaissance de Dieu, ce sont ceux qui enseignent aux autres la parole du Seigneur. Des dirigeants religieux qui auraient dû croire à la suite de ceux qu'ils considèrent comme des mauvais, des rejetés, ceux qu'ils ne jugent pas dignes de s'approcher de Dieu. Et c'est là, mes amis, qu'on prend la mesure de l'énorme fossé qu'il y a entre le regard de Dieu et le nôtre. Parce que nous aussi, on réagit comme ça. C'est quand même pas lui qui va m'apprendre quelque chose. Hein. Quelle humilité il leur aurait fallu pour accepter de se laisser enseigner et guider par ces pécheurs, comme ils les considèrent. Et là aussi, il en est de même pour nous. Hein. Bien souvent, nous jugeons rapidement les autres et nous nous pensons meilleurs en matière de foi. Alors, soit parce que nous allons à l'église, ou alors pire, parce que nous y avons des responsabilités, soit en tant qu'ancien, soit en tant que diacre ou pasteur. Nous nous pensons bien plus proches de Dieu que ces autres qui vivent dans le péché, qui n'ont pas de vie d'église, qui n'ont pas de connaissances. C'est parfois vrai, hein, mais parfois vrai que ces gens-là n'ont pas de connaissances. Mais parfois, l'Esprit parle et souffle comme il veut, hein. Jésus dit aux pharisiens que ceux-ci, les soi-disant mauvais, les précèdent dans l'entrée du royaume. Et le choc est quand même extrêmement violent en premier lieu. Mais dans un second temps, ça doit les amener au questionnement. Ça doit les amener à l'humilité et finalement à la repentance et à la foi. Parce que, ultimement, c'est ce que Dieu désire. Que l'on se repente et que l'on soit sauvé, qui que nous soyons. Alors oui, cette parabole nous dit que l'habit ne fait pas le moine. On peut être surpris d'attitudes de personnes a priori inattendues. Parce que Dieu convie qui il veut sans faire exception de personne. Eh oui. Chacun est appelé à la même conversion, quel que soit son point de départ. Et parfois, ça nous choque, c'est vrai. Hein ? Cette parabole est remplie de verbes de mouvement qui appartiennent au registre de la marche. On a s'approcher, aller, précéder, partir, venir. Ça nous montre qu'il y a une vraie dynamique, une dynamique du repentir et du croire. Ce n'est pas quelque chose de passif. C'est quelque chose qui nous bouge, qui nous fait bouger. Et c'est réellement une dynamique de changer de voie, d'avancer dans une autre direction lorsque la volonté de Dieu se fait entendre. Le repentir, c'est une dynamique de vie, c'est un mouvement, c'est un changement de volonté après réflexion. Et ce changement de volonté, on pourrait dire, c'est une orientation différente de notre vouloir humain vers le vouloir de Dieu. C'est le contraire de s'enfermer dans notre propre volonté. Alors ça n'est pas un changement magique, ça n'est pas non plus un changement qui va de soi. C'est un chemin de conversion. Et la conversion vise ici le rapport à Jésus, à l'autorité qu'on lui reconnaît, à la valeur que l'on donne à son enseignement, évidemment, à la foi que l'on place en lui. Et n'allons pas croire, comme on l'entend souvent, que la conversion arrive une fois pour toutes et puis c'est terminé. On n'a plus rien à faire, plus rien à dire. C'est justement le contraire qu'affirme Jésus dans cette parabole. Et c'est pour cela que nos responsabilités dans l'Assemblée ne sont pas un gage de notre exacte obéissance à la volonté de Dieu. Parce que si c'était le cas, les pharisiens et les grands prêtres ne seraient pas destinataires de cet enseignement. La foi n'est pas statique. La foi place le croyant en constante recherche de la volonté de Dieu. Elle le questionne sur sa fidélité dans sa vie pratique. Est-ce que dans ma vie, mes choix, mes décisions, ma façon de mener ma vie correspond à ce que Dieu, veut ? Il y a quelques années ces petits bracelets, que ferait Jésus à ma place ? C'est une question qu'on devrait se poser quand même assez souvent. Voilà, tout ça nous conduit à pousser la barre de notre vie autrement. Se repentir, on pourrait dire, c'est simplement modifier sa vie après réflexion, si tant est que ça soit facile. Et en fait, c'est tous les jours que nous devons être dans cette dynamique du repentir et du croire. Parce que à chaque instant, nous devons être prêts à modifier notre trajectoire et notre attitude pour mieux correspondre à ce que Dieu attend de nous. Mais évidemment, pour ça, il faut chercher ce que Dieu attend de nous. Cette parabole nous interpelle parce que nous connaissons tous, en nous-mêmes et auprès d'autres, des situations comme ça où l'écart entre le dire et le faire, entre les promesses et les réalisations, l'écart se creuse. Des situations contrariantes et humiliantes où nous vivons parfois le manque de respect de nos propres engagements à nous. Cette parabole nous interpelle aussi parce que la question de Jésus aux anciens et aux grands prêtres, lequel a fait la volonté du Père, résonne aussi en nous-mêmes. Oui, que disons-nous nous-mêmes de l'attitude de ses fils ? Et à quelle situation, à quelle histoire, à quel engagement ou manquement personnel nous renvoie-t-elle ? À quel moment nous avons dit oui et nous n'y sommes pas allés ? À quel moment aussi nous avons dit non et nous y sommes allés quand même ? Question inconfortable, mais question que Jésus nous adresse et qui a pour toile de fond à la fois l'appel général du Père et l'urgence de cet appel. C'est aujourd'hui, va travailler. C'est pas quand tu seras prêt, quand tu auras envie, quand tu seras bien formé, quand tu auras tout compris. Non, aujourd'hui. Que faisons-nous de notre oui adressé un jour à Dieu ? Que faisons-nous de l'appel incessant de Dieu à travailler sa vigne qui demande un soin permanent et exigeant? Que faisons-nous de cet appel renouvelé et chaque jour nouveau, puisque chaque jour est un aujourd'hui pour le Seigneur? Loin d'exclure ou de distribuer des bons points, ce texte nous invite à une ouverture. Parce que quelque part, oui, parfois nous avons dit non, mais ce non peut devenir un oui. Il y a donc une espérance qui a besoin d'être relevée. Et particulièrement quand nous croyons que nous n'avons besoin de rien. Nous sommes attendus, nous sommes appelés, nous sommes aimés par le Père. Et il ne désespère jamais d'attendre notre réponse. Nous sommes invités, nous aussi, à regarder les autres avec cette espérance-là, quelque part. Les regarder voilà, en se disant qu'eux aussi, ils cheminent et peut-être un jour, leur non va se transformer en oui pour le Seigneur. Alors que souvent, c'est plutôt dans le jugement que nous les regardons. Voire parfois même, quand ils sont tellement mauvais qu'ils nous écœurent, on se dit pourvu que jamais ils ne disent oui. Et là, ça résonne beaucoup avec la lecture d'Ézéchiel, je trouve, où Dieu s'adresse au peuple et dit « Vous trouvez que mes voix ne sont pas normales, mais c'est vous qui comprenez rien. C'est vos voix qui ne sont pas normales. Si un pécheur se repent, eh bien on se réjouit. » Combien de fois on parle des enfants, mais nous-mêmes, peut-être on ne le dit pas, mais on le pense quand même. Ça, c'est pas juste. Voilà une parabole qui nous rejoint dans nos propres échelles de valeurs, à la fois pour l'exagérer quelque part, mais pour mettre le doigt sur nos aberrations, et pour mieux nous toucher aussi dans notre vision des autres et de nous-mêmes. Dieu qui nous rejoint dans notre humanité. Parce que non seulement nous pensons et nous voyons le monde selon ces deux catégories, souvent, mais nous appartenons aussi à ces catégories. Et donc nous sommes parfois des oui-non et parfois des non-oui. Alors le premier répond non, incroyable réponse, je ne veux pas, on se dit quand même, c'est gonflé, d'oser dire non à Dieu. Mais finalement, c'est toute l'histoire de l'homme, là, dans ce non. L'homme qui, dès qu'il est capable de dire « je veux », commence par dire « je ne veux pas ». On le voit là aussi avec les enfants. Dès que l'enfant est capable de parole, il ne dit pas « oui », il dit « non ». C'est une manière tout à fait humaine de vivre la liberté qui nous est offerte. Une liberté que l'on vit, en fait, dans l'affirmation de la négation. Non. Une manière de poser son identité, de donner aussi des limites à autrui. Et c'est vrai que la première fois que notre premier enfant nous dit non, on se dit « oh là là, qu'est-ce que j'ai raté ?» Malaise. Mais c'est là qu'on voit aussi avec la parole du Seigneur que un réel amour donne la possibilité d'une révolte. Dieu nous donne la liberté de dire non. Il ne nous oblige pas à dire oui. Alors le second, c'est le bien-élevé, il lui dit oui. Il entend l'appel, il se sent concerné au premier abord, mais il s'est trompé sur le père et sur l'appel. Il réagit comme on réagit à un ordre et non pas comme on reçoit une grâce. Et là aussi, ça nous fait penser au fils aîné de la parabole du fils prodigue, qui vit sa relation avec son père comme une relation de maître à esclave presque. J'ai toujours tout fait ce que tu voulais, j'ai toujours tout obéi. Voilà, ce fils qui vit sa filiation comme un esclavage quelque part et pas comme une liberté. Il reste enfermé dans son système de valeurs, il croit qu'il est contraint et du coup il ne peut s'en sortir qu'en désobéissant, en disant oui parce qu'il se sent obligé, mais en le faisant pas, pour montrer qu'il existe. C'est triste. Il croit qu'il a obéi en disant simplement qu'il allait obéir. Et là, on est face finalement à une situation où on ne sait plus ce qu'est l'amour du Père, on confond cadeau avec obligation. Alors on remet à plus tard, on reste avec nous-mêmes, et voire même on développe de l'aigreur, de la rancœur, parce qu'on ne se sent pas libre. Voilà, quelqu'un qui pense que son oui suffit à Dieu, et on en connaît des gens comme ça, hein. Un jour j'ai dit oui, un jour je me suis convertie, et voilà, j'espère bien que Dieu ne me demandera rien d'autre, ça suffit, hein. On est tous comme ça à un moment ou un autre de notre existence. Nous disons oui à Dieu dans combien de baptêmes, de confirmations? À quel autre moment de notre vie? Et puis parfois on continue notre existence comme si de rien n'était. Le fils révolté, lui, va avoir quelque part toutes les chances de découvrir dans ce face-à-face l'amour du Père. Parce que son nom, il implique du courage, il implique un vis-à-vis, il implique une relation. On se dit, ça va forcément poursuivre ça, sur une discussion. Voilà, nous sommes touchés dans cette parabole par la grâce de Dieu. Jésus qui connaît l'humanité à laquelle il s'adresse, il sait de quoi nous sommes faits, il connaît nos contradictions, notre mal-être, nos difficultés à nous engager, nos révoltes, notre problématique vis-à-vis de la liberté. Je sais que Samuel a prêché sur l'esclavage, hein, la semaine dernière. C'est vraiment le cœur du sujet. Il connaît tout ça et Jésus témoigne de son Père, témoigne de sa grâce. Et il nous offre le risque de nous offrir la vraie liberté, le choix entre le oui et le non, et accepter cette réponse qu'on lui fait. Pas forcément s'en contenter parce qu'il continue de venir nous chercher, hein. Il nous autorise aussi à changer d'avis, et ça, c'est important. Il ne reste pas là-dessus. Il se réjouit du retour du fils prodigue. Oui, l'amour de Dieu est immense, parce qu'au-delà de nos révoltes et de nos tricheries parfois, au-delà de nos bouderies ou de nos tiédeurs, Dieu nous attend pour travailler dans sa vigne, le royaume de Dieu. Alors Jésus force ses auditeurs à faire un choix. Qu'est-ce que c'est faire la volonté de Dieu? Est-ce que c'est dire oui ou est-ce que c'est faire oui? C'est pas pareil. Alors évidemment que la réponse, elle a son importance aussi quand même. On imagine bien que le non de l'autre fils a fait mal. Mais une réaction appropriée est encore plus importante. Ça serait simple, hein, d'opposer la parole et l'action, c'est pas non plus le but. Le nom du second fils, il est quand même blessant, hein. Mais il rentre en lui-même et ça, c'est une bénédiction. Le fils qui dit oui et qui ne va pas travailler est l'image d'un homme actif, toujours prêt à dire oui, à s'impliquer. Il entend la prédication du Christ et il s'enthousiasme, et on a beaucoup de chrétiens comme ça. Mais rien ne se passe, on ne remarque aucun effet, il n'émane rien de lui. L'autre reste sceptique au premier abord, il s'oppose. Mais ça le travaille de l'intérieur, et ça agit. C'est la question toujours actuelle de l'authenticité dans ma vie. Qui suis-je vraiment? Parfois, on est confronté à ceux qui disent non, hein, qui peuvent nous frustrer, nous abattre. Ils râlent, ils boudent. Et puis parfois, finalement, ils font quand même ce qu'il faut. Les péagers et les prostituées vous devanceront, vous précéderont dans le royaume des cieux. C'est la pointe de la parabole et ça ne proclame pas des privilèges exclusifs, mais ça annonce un renversement, en tout cas des rapports dans l'ordre que l'on ressent comme juste ou logique. On se dit « c'est pas juste ». Il en va pour moi de me laisser surprendre par ce que Dieu fait et qui ne correspond pas toujours à ce que j'avais imaginé. Que je puisse compter sur le fait que bien des choses seront différentes de ce qu'elles me paraissent. Il faut aussi sans doute que j'apprenne que le jugement de Dieu n'est pas toujours prévisible pour moi. C'est Dieu qui juge et tout ce qu'il fait est parfait. Voilà ce que nous devons comprendre et croire. Les gens qui paraissent les plus pieux ne le sont pas toujours. Mais inversement, je ne peux pas non plus automatiquement donner raison à ceux qui disent « je peux être quelqu'un de très bon ». Mais je ne m'intéresse pas à l'Église, à la parole, à tout ce qu'on veut. Ça n'est pas les constructions de pensée qui rendent une chose bonne. Ça n'est pas non plus les actions seules, hein. Mais il faut que les deux soient justes. C'est pourquoi Jésus ne vise pas à donner une image idéale. Il faut que vous soyez comme ça, comme ça. Il s'agit tout d'abord de donner une image de ce qu'il ne faut pas être. L'homme ou la femme qui sait tout, qui croit tout, mais dont les actes contredisent ou ridiculisent sa foi. Oh Seigneur, on ne veut pas être comme ça. À cette personne, Jésus oppose celui ou celle qui certes dit tout d'abord non à tout, mais qui ensuite rentre en lui-même, se repent et fait ce qui est juste. Il ne le dit pas pour rassurer ceux qui font comme ça, mais plutôt pour secouer les croyants à qui il fait des reproches. Et qui lui font des reproches ? Ce sont eux qu'il veut amener à mettre leur foi à l'épreuve. Ce sont eux qu'il veut récupérer dans son amour. Qu'en est-il de ta foi dans la pratique ? Voilà la question que Jésus nous adresse ce matin. Comment vis-tu ta foi concrètement au quotidien ? Pas juste le dimanche au culte, là ça va, c'est relativement facile. Mais tout le reste de la semaine, comment tu vis ta foi ? Comment tu la pratiques ? Comment ça se voit ou pas ? Et Jésus veut nous encourager, nous donner le courage d'aller de l'avant et aussi parfois de faire confiance à ceux qui nous entourent parce que Dieu a aussi un plan pour eux. Le courage aussi de m'avouer que je ne fais pas toujours la volonté du Père, même si je le prétends. Et là, la dure parole de Matthieu 7 trouve un début d'explication. Dans Matthieu 7, Jésus dit « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » La foi n'est donc pas une affaire de théorie qui ne se passerait que dans la tête, mais elle veut prendre possession de chacun de nous et nous impliquer entièrement dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos actions. Dans la foi, c'est comme dans l'amour, celui qui n'a pas tout donné n'a rien donné. Alors oui, nous sommes bien heureux, il faut le reconnaître ce matin, parce que nous avons déjà une partie de connaissance. Nous connaissons le Seigneur. Mais veillons d'une part à ne pas le garder jalousement pour nous, et d'autre part à ne pas nous en contenter non plus, mais bien à mettre en pratique cette parole vivante qui a été semée en nous, à faire ce que nous disons, à vivre ce que nous croyons. Voilà, des exhortations qui résonnent d'une manière toute particulière pour nous tous qui avançons ensemble sur le terrain des dons spirituels, du service dans l'Église et pour Dieu. Être appelé par Dieu nous engage. Avoir un ou des dons aussi, et nous avons vu que tout le monde en a un. Il ne suffit pas de s'en contenter, encore moins de s'en glorifier, mais bien de les mettre au service de tous. Et le seul but doit être la gloire de Dieu. Je vous encourage donc à vous placer, à nous placer tous ensemble dans cette dynamique du repentir et du croire, dans cette recherche renouvelée de la volonté du Père et à participer joyeusement à son œuvre, en disant non seulement « Oui, je veux bien, Seigneur », mais aussi et surtout en y allant vraiment et en servant de tout notre cœur. Dieu nous veut à son service et ça, c'est une grâce. Amen.